Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, nous sommes lundi le 22 mars, déjà le printemps. Certains vont dire enfin le printemps, c'est une question de verre à moitié plein ou à moitié vide. L'hiver a été certainement un peu plus long que d'habitude cette année. Oui, alors on est content qu'il fasse beau, qu'il y ait du soleil. Nous aurons aujourd'hui des questions d'hébergement, de photosensibilité et d'aménagement intérieur. C'est ce que nous avons au menu. On va parler avec Mme Delphine Ragon, coordonnatrice de Pardi, parents pour la déficience intellectuelle. Et nous allons parler avec elle de l'hébergement pour les personnes en situation de déficience intellectuelle ou vivant avec le trouble du spectre de l'autisme. Il y a peu de recours et ce n'est pas une situation de locataire qui est ordinaire. On va aussi rencontrer Mme Virginie Lassalle, qui est professeure adjointe et responsable en design intérieur à l'École de design de l'Université de Montréal. Et on va penser ou repenser les CHSLD autrement. Nous aurons également Mme Sarah Lippé, chef adjointe de l'axe de recherche cerveau et développement de l'enfant. Nous allons parler de photosensibilité et d'épilepsie. Tout ça à Sans détour. La semaine dernière, il y avait une lettre d'opinion publiée dans les médias qui soulevait, qui décriait une situation malheureuse. L'hébergement en déficience intellectuelle et en autisme, peu de recours pour les personnes vulnérables qui vivent dans la pauvreté, surtout en fait lorsque les frais augmentent et qu'on ne peut rien dire. Nous avons avec nous pour en discuter Mme Delphine Ragon. Bonjour Madame, comment allez-vous?
Bonjour, ben ça va bien. Comme vous disiez, le printemps chante sous nos fenêtres, alors ça fait du bien.
Les oiseaux, les marmottes, les écureuils.
Exact.
On avait tous ces gens-là dans notre cour ce matin.
Voilà.
On va parler du système, ou comment le système organise le chez-soi des personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou qui vivent avec des troubles du spectre de l'autisme. Il existe plusieurs types de logements.
Oui, il existe plusieurs types de ressources ou milieux de vie substituts, comme on les appelle actuellement. Donc, substitut, c'est substitut au milieu de vie originel, souvent familial. Donc, les ressources intermédiaires, les RAC, ressources à assistance continue, et les ressources de type familial. Voilà un petit peu les trois milieux de vie substituts existants en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Ce sont des milieux de vie tous collectifs. La différence entre les RAC, ressources à assistance continue, et les deux autres que j'ai nommés, les RI et RTF, c'est que les RAC sont des ressources à l'interne de l'établissement, du CIUS, alors que les deux autres modèles vont être en contrat. Ce sont des personnes physiques ou morales qui vont être en contrat avec l'établissement.
Oui, les résidences à assistance continue, les RAC, c'est vraiment pour des situations de suivi 24/7, pour des moments dans la vie de la personne où il y a peu d'intégration sociale possible. Ça peut être suite à un événement, une crise ou quelque chose. Et là, c'est temporaire comme mesure parce qu'on n'est pas en assistance continue tout le temps.
Alors, en fait, les trois types de milieux de vie dont j'ai parlé tantôt sont des 24/7, comme vous dites. Mais la différence avec les RAC, au-delà du fait qu'elles sont des ressources à l'interne de l'établissement, c'est qu'elles offrent des services d'intervention plus intensifs avec un personnel qui est un personnel du CHUS, qui est en effet relié à souvent des troubles du comportement ou des troubles graves du comportement. Et c'est pour un moment temporaire avec une visée de retour dans un milieu de vie RI, RTF ou retour au milieu familial éventuellement.
Bon, maintenant que le décor est dressé, on va aller un peu plus pointu. Vous avez co-signé avec d'autres intervenants, intervenantes dans le domaine de la santé mentale, une lettre d'opinion qui a été publiée dans les médias. Ou en fait, votre lettre, c'est un titre assez simple. Est-ce que vous accepteriez de vivre de cette manière-là? Et là, vous décrivez de façon simple et nette les options ou le manque d'options, le genre de vie que les personnes avec une déficience intellectuelle ou des troubles graves du spectre de l'autisme doivent, dans quelles conditions ils doivent vivre. Et la réponse, quand on voit la description, bon, on se dit, ben non, moi, je ne vivrai pas comme ça.
Non, c'est ça, parce que en fait, c'était cette lettre ouverte qui finalement n'a pas été publiée dans les médias, pour l'instant en tout cas, mais elle faisait suite à un article du journal Métro qui datait du, je crois, 26 février, qui parlait de la situation justement des ressources à assistance continue avec une augmentation des coûts de loyer qui semblait immense, c'est-à-dire de environ 300 dollars. Les gens ont été informés en mi-février pour une augmentation en date du 1er mars. Alors, suite à cet article, on est un petit peu allé se renseigner parce que nous, on n'avait pas eu beaucoup de retours sur cette situation. Et en fait, on s'est rendu compte que, on a parlé au SUS Centre-Sud, qui était le SUS concerné, qu'il s'agissait d'un principe d'harmonisation, en fait, des politiques et procédures pour l'ensemble des milieux de vie substituts, qui était commencé depuis plus qu'une année et qui avait été un peu mis sur la glace pour les quelques ressources qui restaient à harmoniser à cause de la pandémie. Et là, bon, voilà, il s'agissait de huit ressources RAC concernées, dont quatre en DITSA et quatre en déficience physique. Et bon, il y a quelques situations où, en effet, l'augmentation a été jusqu'à ces 300 dollars nommés. Pour la plupart, c'était une augmentation de entre 10 et 75 dollars. Alors, là où on a voulu communiquer, en fait, c'est sur une situation plus large, qui est, on comprend le principe d'harmonisation et d'équité, puisqu'il s'agissait d'harmoniser des gens qui payaient moins que toutes les autres personnes hébergées au Québec.
Les gens qui avaient des hébergements similaires, oui.
Voilà, exactement. À conditions égales, il y avait des traitements inégaux, donc on comprend le principe d'harmonisation et d'équité, même si on le nommait dans notre lettre, on aimerait toujours que ça aille vers le mieux et non vers le pire.
Oui, que ce ne soit pas un nivellement vers le haut. Mais,
exactement, voilà. Mais bon, on connaît la réalité, hein. On ne vit pas chez les Kalinours. Alors voilà, mais... Ceci dit, ça nous permettait de parler plus largement de l'ensemble des milieux de vie substituts et des conditions de vie pour les personnes, parce que ce loyer qu'on appelle en fait une contribution dans le jargon du milieu sert à payer finalement l'électricité, le gîte et le couvert, et puis les équipements thérapeutiques éventuels, comme par exemple une douche adaptée, etc. Ce qui nous semblait pas normal, en fait, c'est qu'ils payent en général, ils payent maximum, leur contribution elle est de 1025 dollars, si je ne me trompe pas, mais c'est entre 832 et 1025 dollars. Sauf que pour ça, en fait, ça ne paye pas du tout les accompagnements qui sont associés. Hein,
exact. C'est vraiment, qu'est-ce qu'il y en est des accompagnements? Qui les défraie? Parce que là, il reste, après que le chèque eut subi une ponction là, qui va de 830 à 1025, il ne reste pas grand-chose. Puis,
exactement.
Un, pour les loisirs ou avoir une vie agréable, normale, où on peut sortir puis faire autre chose.
Normalement, d'après la dernière directive ministérielle, il leur reste 273 dollars, même si le SUS Centre-Sud nous a parlé de 256 dollars. On est allé chercher la réponse, mais on ne l'a toujours pas de la fiducie du SUS Centre-Sud. Mais bon, partons sur du 273 dollars. C'est sûr que c'est peu. C'est peu parce que qu'est-ce qu'ils peuvent se payer sur ces 273 dollars? Bon, leurs vêtements, les produits d'hygiène, on a dit, sont fournis dans leur loyer, hein, c'est gîte et couvert, sauf que ce sont des produits d'hygiène de base et de base. Donc, si vraiment quelqu'un a des besoins particuliers pour des questions d'allergie ou des choix de vie, j'aime mieux tel shampoing que tel autre, il doit se les payer lui-même là-dessus. Ce montant-là, leur sert aussi à contribuer à leurs vacances annuelles, qui sont souvent dans des séjours adaptés. Les séjours adaptés, ça coûte très cher.
C'est plus cher parce que c'est... Oui, ça...
Ils payent pour l'accompagnement. Ils payent pas juste là pour aller dans un hôtel. Ils vont aller dans un endroit où il y aura des intervenants qui vont les accompagner. Ils payent aussi pour ça. Donc, encore en passons, disons, ok, on accepte ça. Les conditions de vie au quotidien dans les milieux de vie substituts, hein, que ce soit les ressources intermédiaires de type familial ou les RAC dont on a parlé, ils ont peu de choix hein, dans ces contextes de vie. Alors, ils sont en colocation. Hein,
c'est un peu comme une institutionnalisation, mais à domicile. Dans le sens où on ne mange pas ce qu'on veut, puis c'est à telle heure, puis on partage notre
exactement,
milieu de vie avec des personnes qu'on n'a pas choisies.
On ne choisit pas ses colocataires, on ne choisit pas ses heures de coucher. Si on veut des choses différentes, alors en termes de repas, ben on se les paye soi-même, hein, sur le fameux 273$.
Mensuel, il faut l'ajouter, là, oui.
Voilà, si on veut l'Internet, c'est rarement compris dans les milieux de substituts, donc on doit se le payer. Si on veut la télévision, on doit aussi se le payer. Mm-hmm. Quelques ressources fournissent le câble, mais ils ne choisissent pas leur chaîne. Voilà, c'est un petit peu ça leur condition de vie. Puis c'est évident que si on parle de Montréal, on connaît pour tout à chacun le prix des loyers hein, et l'augmentation
oui,
des loyers.
Oui, tout à fait.
Donc on comprend aussi, si on veut sensibiliser, qu'il y ait des gens qui puissent dire et moi non plus, quoi, j'ai tout payé dans mes poches, même si je n'ai pas une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, il ne me reste pas beaucoup plus que 273$. Sauf qu'eux ont en plus peu de choix dans leur vie. Même si tout,
ben, c'est pas parce que c'est une situation malheureuse pour beaucoup d'entre nous qu'il ne faut pas s'en plaindre pour d'autres.
voilà. L'amélioration.
Sinon on accepte tous que ce soit médiocre.
Exactement. Il faut toujours viser vers le mieux. Et je ne sais plus ce que j'allais dire.
Je veux juste revenir pour terminer sur une question qui était le coût de l'accompagnement. Parce que c'est ce qui distingue la situation des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. C'est qu'une partie de ce qui leur reste à la fin du mois, là, 273$, ben, ça doit couvrir des coûts d'accompagnement qu'une personne valide n'aurait pas à couvrir.
Absolument. Alors, ça, c'est les coûts d'accompagnement pour leurs vacances ou des éléments plus personnels. Les coûts d'accompagnement au quotidien à l'intérieur des ressources, ce sont les juges qui les défrayent. Mm-hmm. Donc ça se rajoute hein, en termes de coûts, mais c'est pas eux qui payent leurs accompagnements au quotidien au sein de leur
d'accord.
milieu substitué.
D'accord. Mais est-ce que parce que c'est contrairement à une personne qui a un loyer, qui peut aller toujours faire une demande auprès des organismes qui réglementent le loyer, la régie du logement, et ainsi de suite, ben, dans ce cas-ci, les personnes qui vivent dans ces modes d'hébergement n'ont pas le choix. Le loyer est imposé, puis c'est ça. Tout est calculé d'avance, oui.
Exactement, c'est le ministère qui décide et en effet, ils n'ont pas de recours puisqu'ils ne signent pas de bail, hein, donc c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça un loyer. Donc ils n'ont pas de recours. Là, on parle d'une augmentation de loyer qui a été faite trois semaines avec trois semaines de préavis.
Exact.
Qui accepterait ça?
Voilà, ben, c'est un peu la question avec laquelle on va se laisser. Madame Ragon, je vous remercie beaucoup de ce que vous nous avez dit. Ça nous éclaire beaucoup parce qu'on oublie les gens, on ne les voit pas. Donc, malheureusement, ils existent. Voilà. Alors, il faut qu'on s'en occupe.
Et moi, je finirai, excusez-moi de vous avoir interrompu, ça doit être le printemps, mais je finirai par le fait que si on veut une société meilleure pour l'ensemble des Québécois, il faut aussi s'occuper des personnes vulnérables.
Ben oui.
On a beaucoup parlé des aînés, là on parle de handicap. Mm-hmm. Et c'est en s'occupant d'eux que ça amène toujours des conditions meilleures pour tout le monde.
Exactement, tout à fait. On ne peut s'élever qu'ensemble.
Exactement.
Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.
Vous aussi, au revoir.
Est-ce que les chants grâce au feu ou si elles restent dans leur bulle. Je pense à tous ceux qui savent faire face au vent. Je pense à toutes celles qui se relèvent tout le temps, tout le temps. J'ai connu des maisons où le malheur est montré, sans cogner, sans raison, même quand on dort à point fermé. Il y a des au revoir qui sonnent comme des adieux et qui nous replient.
Une musique déstabilisante, on va dire ça comme ça. Hein? C'est bien, ça nous force à écouter puis à tirer l'impression du son. L'épilepsie, la photosensibilité et les écrans. Avec la pandémie, le confinement, nous avons tous passé plus de temps à fixer un écran que d'habitude. Et déjà, on le fait souvent beaucoup. J'ai avec moi la docteur Sarah Lippé. Bonjour, docteur. Vous êtes chef adjointe de l'axe de recherche Cerveau et développement de l'enfant au centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Comment allez-vous?
Très bien, merci. Et vous?
Ça va bien, merci. Un des aspects, je le mentionnais, du confinement, c'est qu'on fait plus d'écrans, plus de clignotements, plus de lumière bleue, plus de flashs. Et les gens qui souffrent d'épilepsie, parfois, sont photosensibles et ça peut déclencher des crises.
Oui, absolument. Donc, la photosensibilité, c'est une réponse anormale du cerveau qu'on peut mesurer à l'électroencéphalogramme. Et parfois, ça se limite aux régions visuelles du cerveau, mais parfois, ça s'étend aussi. Donc, c'est un phénomène qui est, comme vous le disiez, là, qui peut être induit vraiment par l'environnement lumineux. Et donc, dans les écrans, quand il y a des fréquences plus élevées avec des forts contrastes lumineux, ça peut induire justement une activité anormale chez certaines personnes. Et sans surprise, ben, ces activités anormales-là surviennent plus souvent dans une population d'enfants épileptiques. Cette photosensibilité-là, elle est présente dans 2 à 5 des enfants épileptiques.
Et ça, est-ce que vous avez remarqué qu'avec la pandémie, vous avez eu plus de cas parce que plus d'écrans?
C'est pas clair qu'il y a plus de cas. Donc, il n'y a pas d'études vraiment empiriques qui ont été faites là, pour démontrer ça. Par contre, avec l'augmentation de la durée de temps, donc, où on regarde les écrans,
puis plus d'adhésion ou même éventuellement peut-être plus d'adduction à l'écran puis aux jeux vidéo, ben ça pourrait, c'est un phénomène qui pourrait être là. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas d'études empiriques qui l'ont démontré,
mais c'est sûr qu'à force de traverser la rue, on augmente nos chances de se faire frapper par une auto. Alors, si on passe plus de temps devant l'écran puis que nous sommes photosensibles, il se peut que les probabilités éventuellement de déclencher. Mais est-ce que ça peut créer des effets qui sont pernicieux à court ou à moyen terme qui ne vont pas nécessairement jusqu'à la crise?
Oui, donc c'est possible qu'il y a des gens qui aient une photosensibilité, mais qui n'aient pas nécessairement d'épilepsie comme telle. Donc, pour vraiment être épileptique, il faut faire plus d'une crise convulsive. Donc, c'est pas seulement un phénomène comme ça là, d'activité paroxysmale qui nous confine, entre guillemets, à un diagnostic d'épilepsie. Donc, c'est possible que ce soit une manifestation qui se présente chez un enfant comme ça sans qu'il y ait de conséquences nécessairement neurologiques à long terme. Par contre, les personnes les plus susceptibles d'avoir ces réactions-là, c'est bien sûr des personnes épileptiques. Il n'y a pas eu de... C'est sûr que dans les dizaines, les 10-20 dernières années, il y a eu plus d'inquiétudes par rapport aux écrans parce que effectivement le phénomène ne cesse d'augmenter. Là,
la popularité des jeux vidéo, puis qui... On passe des heures là-dessus ou des week-ends où on devient addict et on y passe notre vie, là. Mais ça suppose d'autres types de débordements ou de problèmes
oui,
aussi.
Oui, il y a d'autres facteurs de risque aussi qui vont vers ça. C'est sûr que les recommandations du corps médical pour les enfants qui ont une photosensibilité et qui sont épileptiques, c'est quand même, en gros, d'avoir la vie la plus normale possible. Donc, on n'empêchera pas les enfants de jouer à des jeux vidéo. Par contre, on peut être bien modulé le type de contenu qu'on va regarder. Donc, on va réduire, par exemple, l'intensité de l'écran, le niveau de luminosité, ou on va essayer de diminuer le contraste entre l'écran puis la lumière ambiante. On va aussi éviter les jeux vidéo qui utilisent là, dans le ou les émissions de cartoon, par exemple, les flashs dans le dans le contenu, dans le contenu.
Ça peut être des vidéoclips aussi. Les vidéoclips aussi utilisent ce genre d'effet visuel.
Oui, donc on sait que pour la majorité des gens qui ont cette photosensibilité, c'est les fréquences entre 15 et 25 Hz qui sont les plus susceptibles de provoquer une crise. D'accord. Donc vraiment, on va essayer de ne pas regarder de contenu où il y a des fréquences aussi élevées. Normalement, quand on est dans les fréquences plus basses, là, autour de 1 à 10 Hz, il y a pour la majorité des gens, même pour les gens photosensibles, il n'y a pas trop d'impact de ces fréquences-là dans le contenu visuel.
Il faut se tenir aussi à une bonne distance de l'écran de télé ou de l'ordi. Il faut éviter, je pense, de faire ça dans l'obscurité parce qu'à ce moment-là, ça devient la seule source de lumière. Il n'y a pas de diversion lumineuse dans notre environnement.
Exactement. Donc, c'est ça, c'est ces paramètres-là sur lesquels la personne peut jouer. Dans l'environnement, qui ne sont pas des écrans, mais disons à l'extérieur, il y a parfois des rayons lumineux du soleil avec des contrastes d'ombrage. Là, si on est, par exemple, en voiture puis qu'on a des variations rapides, ça aussi, ça peut être un élément. Donc, on suggère de porter des lunettes soleil. Donc, tout ce qui est une activation là, visuelle où il y a du flickering, vraiment quelque chose qui ressemble à un stroboscope, c'est à éviter pour ces personnes-là.
Je vais vous poser une question qui est simple et celle d'un profane, je l'avoue. Qu'est-ce qu'on fait en cas de crise? Si on sait que on peut ne pas savoir que le jeune dans la famille va être photosensible au point que ça puisse induire une réaction épileptique, qu'est-ce qu'on fait si ça arrive?
Absolument, mais si ça arrive, on met la personne en sécurité, donc la crise, elle est convulsive, puis elle induit des mouvements du corps. On protège la personne le plus possible pour pas qu'elle se blesse. Puis on appelle l'ambulance, puis on va à l'hôpital pour avoir une investigation plus large. Donc, entre-temps, la crise, la plupart du temps, va s'être arrêtée d'elle-même. Là. C'est-à-dire que le cerveau lui-même va s'autoréguler, puis arrêter la crise, mais par la suite, ça vaut la peine d'avoir une investigation par un neurologue à l'aide d'un électroencéphalogramme, qui est un équipement qui combine des électrodes pour enregistrer l'activité électrique du cerveau. C'est vraiment un examen qui est sans douleur, qui se fait très, très bien et qui est très, très informatif là, pour voir si les dangers qu'une autre crise épileptique puisse survenir à nouveau.
Moi, c'est l'image qui me vient dans ces situations-là, puis je m'excuse si ce que je vais vous dire est très naïf, là, mais c'est de mettre comme un crayon entre les dents pour pas qu'il se morde, la personne se morde la langue. Est-ce que c'est idiot?
Pour vraiment éviter de mettre quoi que ce soit dans la bouche.
Parce qu'on peut s'étouffer.
Beaucoup de contrôle et puis, ouais. Puis la personne elle-même n'a pas beaucoup de contrôle.
Ouais.
La position idéale, c'est la position sur le côté avec le genou tiré en avant, comme on ferait, par exemple, avec une personne noyée.
Oui.
Je ne sais pas si les gens ont suivi des cours de secourisme, mais c'est cette position-là qui est l'idéale. Comme ça, la langue tombe sur le côté, elle risque pas d'aller en arrière, mais il faut pas trop s'en faire avec cette affaire-là et surtout pas là, aller mettre des objets dans
la bouche. Oui, c'est ça, mais il me semble que c'est le classique, là, on voit toujours quelqu'un qui fait une crise dans les médias, quelqu'un se précipite puis met ses doigts dans sa bouche avec un mouchoir là, pour pas que la personne se coupe la langue, se tranche la langue carrément avec ses dents. Mais je me suis toujours posé la question si c'est une légende urbaine ou s'il y avait un fondement scientifique. Au-delà de ça, l'axe de recherche du CHUM Sainte-Justine, sur quoi est-ce que vous planchez?
Bien, en fait, sur plusieurs choses, mais par exemple, on s'intéresse beaucoup à l'activité cérébrale des enfants qui ont non seulement une épilepsie, mais un trouble neurodéveloppemental un peu plus global.
Mm-hmm.
Donc, on se rend compte parfois que l'activité cérébrale peut nous instruire sur les mécanismes là, qui sont en dessous des déficits cognitifs, par exemple, qu'on peut retrouver chez ces enfants-là, au-delà de l'aspect épileptique.
Donc,
on se rend compte, en fait, que chez les enfants qui ont une photosensibilité, ça se pourrait que ça s'étende un petit peu plus que la population épileptique. Donc, c'est un des éléments qui nous intéresse particulièrement.
Ah, mais ça, c'est intéressant. Je vous remercie beaucoup, Dr. Sarah Lippé. Vous êtes chef adjointe d'axe de recherche cerveau et développement de l'enfant au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Merci d'être avec nous et bonne journée.
Bonne journée à vous.
Sans détour avec François Beauregard.
Avec le confinement, la pandémie, COVID-19, ainsi de suite, s'il y a quelque chose qui a tout d'un coup retenu l'attention de la société, ce sont les CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée, où malheureusement beaucoup, beaucoup de pensionnaires, de résidents ont souffert de la COVID, sont mortes. Et on commence à avoir une politique ou une intention sociétale de refaire les CHSLD autrement, mais la solution semble souvent plus être une solution d'une administration par un plus grand nombre de membres du personnel qui sont mieux encadrés ou qui ont une pratique de travail qui est plus optimisée. Mais on ne parle pas beaucoup de l'intérieur, des lieux eux-mêmes qui sont supposés être des milieux de vie, alors que de fait, ça ressemble surtout à un hôpital dans lequel on est coincé longtemps. J'ai avec moi Mme Virginie Lassalle. Vous êtes professeure adjointe et responsable au DSS en design intérieur à l'École de design de l'Université de Montréal. Bonjour Mme Lassalle.
Bonjour M. Beauregard.
Comment allez-vous?
Ça va très bien vous-même?
Ça va bien, merci. Un CHSLD pour en avoir visité plusieurs. C'est un endroit assez triste.
Oui, tout à fait. Puis je trouve que vous avez bien apporté la problématique là qui nous préoccupe ces temps-ci. C'est un endroit assez triste, un endroit où est-ce que lorsqu'on va visiter des proches, des gens qu'on connaît, on est content de voir nos proches, mais on est content de quitter les lieux assez rapidement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est
oui.
Ce qu'on en retire.
Oui, tout à fait. C'est vraiment, on a l'impression d'être un endroit qui devrait être transitoire, mais qui ne l'est pas.
Tout à fait. Et dans l'acronyme CHSLD, il y a le terme hébergement.
Mm-hmm.
Et quelque part, là, on vous parlait que ça devrait être transitoire, mais on sait que pour une bonne partie des résidents, c'est assez permanent. Ça sert plutôt d'habitation à long terme, hein, de lieu de résidence. Donc, c'est là où se pose une question importante, là, de la qualité des lieux par rapport aux besoins des gens qui demeurent pour de la longue durée.
Comment est-ce que vous imaginez le CHSLD idéal dans lequel des gens pourraient, malgré une perte d'autonomie, une perte de mobilité ou même de faculté cognitive, pourraient y vivre heureusement?
Alors, il y a plusieurs pistes de solutions. Il y en a certaines qui sont déjà à l'étude et même appliquées là, avec D'accord. les nouvelles propositions des maisons pour aînés. Je pense entre autres à l'échelle des bâtiments ou des rassemblements qu'on veut faire de résidents,
mm-hmm.
Avoir des maisonnées quelque part là qui sont à échelle réduite, un peu plus petite pour avoir davantage l'aspect de quelques personnes, là, des groupes qui peuvent varier en taille, mais qui permettent de casser cette grande échelle institutionnelle qui souvent contribue avec les longs corridors, mm-hmm. pas très vastes dans lesquels on se perd, à nuire à la signification et à la bonne perception des lieux. Ça, c'est sûr que c'est des pistes qui sont envisagées, qui sont très porteuses. Il y en a d'autres que moi, sur lesquelles je travaille en recherche, qui font le lien entre les modes de socialité et l'habitation. Donc, vous savez, quand on parle du chez-soi, hein, c'est un terme qu'on identifie à la maison, mm-hmm. au lieu où est-ce qu'on oui. habite, où est-ce qu'on se sent bien, qui nous correspond. On a des manières d'habiter qui sont liées avec la socialité. Le chez-soi, la maison, c'est un lieu où est-ce qu'on peut se retrouver avec soi-même, donc un lieu de l'intime. Mais c'est un lieu aussi où est-ce qu'on peut recevoir des gens.
Avoir son salon, avoir sa cour en arrière ou son balcon.
Tout à fait, qu'on peut recevoir, puis on ne reçoit pas nécessairement, ou en fait, on reçoit rarement dans notre chambre à coucher, on le sait, donc on a besoin de pièces pour ça, pour recevoir, pour être à l'aise, d'accueillir mm-hmm. les gens. Mais aussi, des fois, il y a des inconnus qui viennent chez soi, soit des livreurs, des voisins. On va avoir des contacts en lien avec l'habitation, avec des gens qu'on ne tient pas nécessairement à faire entrer chez soi. Hein? Donc ça, c'est mm-hmm. un autre mode de socialité aussi. Les gens, ils vont rester soit sur le pas de la porte à l'extérieur ou soit tout juste à l'intérieur. Donc ça, c'est important aussi comme habitant, comme résident, d'avoir ce contrôle-là sur oui. les rapports sociaux qu'on a avec différentes personnes. Donc, on a dit les étrangers, les proches, toi-même aussi. Mm-hmm. Donc,
c'est comme un modèle concentrique, là. On part de la chambre à coucher, puis du lieu où on dort, là, vraiment, oui. tout simplement, puis un peu plus large, nos intimes qu'on peut rencontrer au salon ou à la salle à manger. Puis après ça, le vestibule, où est-ce que le livreur va simplement déposer son paquet ou on va répondre à un sondage, mais on ne veut pas oui. que ces gens-là se retrouvent jusque dans notre lit. Et dans les CHSLD, essentiellement, c'est des chambres avec des grandes salles d'attente où il y a une télé.
Oui, c'est ça. Des aires communes qui sont des aires de circulation aussi souvent. Hein?
Mm-hmm.
Les gens circulent à travers ces espaces-là. Une télé. Souvent, les gens vont être dans les corridors aussi.
Oui.
Ils vont être un peu comme quelqu'un serait sur son balcon devant la rue, là, puis regarde les gens passer,
oui.
Mais en fait, ils sont dans le corridor devant leur porte de chambre, qui habituellement est ouverte, puis on voit toute leur intimité
exact.
Spatiale qui est dévoilée comme ça aux yeux de tous. Donc, moi, ce que je propose, puis vous l'avez très, très bien résumé, c'est de penser davantage l'espace du CHSLD selon le modèle d'organisation spatiale de la maison, avec une manière de penser les lieux en séquence qui permet de protéger l'intime, mais qui permet aussi de favoriser l'accueil de ceux que l'on veut rencontrer. Ça, on sait que pendant la pandémie, c'est un problème qui s'est vraiment révélé dans nos CHSLD, c'est-à-dire que les proches n'ont plus eu la possibilité de venir visiter les résidents.
Mm-hmm. Oui.
Et ça a été un problème très important qui a non seulement porté directement sur la qualité de vie des résidents, mais aussi sur leur santé. Donc, on sait qu'il y en a qui a eu une incidence majeure.
Tout à fait, parce qu'il y a souvent une incompréhension aussi de pourquoi cette restriction. Mais un jour, la pandémie sera derrière nous, voilà. Et est-ce qu'on peut refaire les CHSLD existants? Est-ce qu'il est possible de modéliser un bâti existant qui a déjà tous ses corridors et toutes ses chambres et de partir de là et de recréer quelque chose qui soit différent? Parce que de tout abattre et de tout reconstruire, c'est une immobilisation énorme pour la société.
Oui, vous avez raison. Ça serait un très grand défi de plusieurs manières. Moi, je pense pas que ce soit impossible. Je pense qu'au contraire, il faut chercher la manière par laquelle ça serait possible. Mais je pense que c'est des décisions de société importantes qui impliquent évidemment des financements conséquents. Mais oui, ça pourrait être possible. On a des exemples en Scandinavie, par exemple, où on a ajouté des vestibules à l'entrée des chambres.
Ah, OK.
Et, par exemple, ça va être un espace intermédiaire qui va permettre d'allonger un petit peu le trajet jusqu'au lit, hein, qui est souvent comme l'élément...
Mettre un siège, quelques sièges, une table, puis une autre porte.
D'allonger un peu. Et même, c'est ça l'exemple que je vous donne en Scandinavie, ça peut être un lieu de soins. Donc, au lieu de recevoir le soin infirmier ou autre directement dans le lit, on peut avoir une pièce intermédiaire qui permet d'avoir ça. Donc, d'avoir comme un autre usage et qui permet à la personne d'avoir dans sa chambre un espace plus reculé auquel le personnel n'a pas nécessairement directement accès non plus.
Oui. Donc, c'est la salle de bain qui est la plus près du corridor. C'est ça qui est malheureux, la façon que souvent c'est bâti, là. Dès qu'on rentre dans l'espace du résident, tout de suite, la première porte que l'on voit à gauche, c'est les toilettes. Ça commence
pas
comme ça.
C'est le plus intéressant.
Non, puis en plus, en termes de sauvegarder de l'intimité, là, c'est pas champion.
C'est ça, exactement. Disons qu'on a à repenser pour mieux protéger la dignité de nos résidents en CHSLD. Et puis voilà, il y a plusieurs pistes qui peuvent permettre ça. C'est certain qu'on a besoin d'espaces qui sont plus vastes quand on va avec des options comme celle-là. Mais je pense qu'on est rendu à prendre des décisions de cette nature pour être plus en accord, en fait, avec nos valeurs actuelles.
Et pour ce qui est de la sociabilisation à l'intérieur du CHSLD, pas juste de recevoir nos proches, mais aussi d'être capable de rencontrer ou d'être en interaction avec les autres personnes qui partagent le même milieu de vie que nous, notre voisin ou notre voisine de corridor là, ou de palier, comment est-ce qu'on peut réaménager les lieux?
De la même manière qu'on va repenser les espaces plus privés avec plus de complexité puis donner plus de choix, on peut penser de la même manière les espaces partagés.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir seulement une grande salle où tout le monde va aller, on pourrait avoir des espaces de taille intermédiaire qui permettent à des petits groupes de résidents de se réunir. Quelquefois même, ça peut être des alcôves, des espèces de renfoncements ou de retraits dans les corridors plus larges qui permettent de s'asseoir. Tout à l'heure, je mentionnais la terrasse ou le balcon. Des fois, les personnes âgées ou même nous, on est contents de s'asseoir et de regarder un petit peu la vie qui se déroule à l'extérieur. Bien, d'avoir ce type d'espace où est-ce qu'on peut s'installer, être un peu en retrait, avoir un certain confort, un éclairage particulier, avoir vraiment un lieu qui a une petite ambiance différente, puis que deux personnes qui ont envie de s'asseoir là puis de passer un petit peu de temps ensemble, ça peut offrir des alternatives aux espaces très grands, souvent de passage, qu'on mentionnait tout à l'heure. Il y a toutes sortes de pistes comme ça qui permettent d'avoir plus de choix, plus de liberté pour les modes de socialisation.
Parce que de se retrouver souvent un peu en catastrophe, on arrive au CHSLD après des incidents qui ont démontré qu'on commençait à ne plus être capable de vivre seul ou de façon autonome. On se retrouve dans une grande institution avec un personnel infirmier, ça c'est intimidant, et avec beaucoup d'autres résidents qu'on ne connaît pas du tout. Puis c'est un peu comme arriver la première année au secondaire, là, en secondaire 1 dans la grande salle des la grande salle des cases, là, puis on ne connaît personne, puis on pense à se faire intimider ou on trouve ça intimidant de toute façon. Alors, ce que vous proposez, c'est de briser ce lieu immense de salle d'attente de gare, là, puis briser ça pour que les gens puissent apprivoiser leur co-résident, un ou une personne à la fois, et non pas faire face à une foule quand on est déjà un petit peu en état de choc, là. Est-ce que
Pensez à une échelle plus humaine. Plus proche de la personne, ça va rendre plus accessible,
Dans le modèle que le gouvernement veut mettre de l'avant de Maison des aînés, est-ce qu'il y a quelques-unes de ces idées-là qui semblent collés, qui vont être retenus, qui seraient mises de l'avant?
Bien, je pense que déjà, de vouloir faire des milieux de vie à une échelle plus réduite, c'est déjà une très, très bonne piste, Donc, ce type d'idée,
Et je pense des directions importantes, des intentions là, qui sont mises en place dans les maisons des aînés. Mais d'autre part, moi, je pense qu'il y a des gestes architecturaux, des réflexions beaucoup plus fines, comme je le mentionnais, par rapport à la socialisation, qui doivent aussi être appliquées, intégrées. Qui doivent aussi faire partie du travail, je dirais, spatio-architectural, qui va vraiment venir soutenir la qualité de vie des résidents.
Et ça ne devrait pas être simplement ce qui reste à bâtir, mais va falloir adapter ce qui existe déjà, parce que sinon, on va se retrouver avec deux classes de CHSLD. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Lassalle, d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça. C'était Mme Virginie Lassalle, qui est professeure adjointe et responsable en design d'intérieur à l'École de design de l'Université de Montréal. Merci, Madame.
Merci à vous.
Est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise de parasol.
Il n'est pas loin de midi d'après le soleil. Formidable aujourd'hui, ce que j'ai sommeil.
L'existence est un problème à n'en plus finir. Chaque jour, chaque nuit, c'est le même. Il vaut mieux dormir.
Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail.
Mais ça suffirait à pousser un homme au travail.
J'ai une soif du tonnerre, il faudrait trouver un gars pour jouer un verre en trois coups de dé.
Je ne vois que des fauchés tout autour de moi. Et d'ailleurs, ils ont l'air de tricher aussi bien que moi.
Et pourtant, j'ai le gosier comme du buveur.
Ça m'arrangerait pour moment s'il pouvait pleuvoir. Un Mexicain basané
allongé sur le sol,
le sombrero sur le nez, en guise de parasol.
Voici venir Cristobal, mon Dieu, qu'il est fier. C'est vrai qu'il n'est général que depuis hier.
Quand il aura terminé sa révolution, nous pourrons continuer tous les deux la conversation. Il est mon meilleur ami, j'ai parié sur lui 10 pesos. Et s'il est battu, je n'ai plus qu'à leur dire adios.
Adios. On voit partout les soldats courant dans les rues. Si vous ne vous garez pas, ils vous marchent dessus.
Et le matin, quel boucan, sacré nom de nom, ce qu'ils sont énervants, agaçants, avec leurs canons.
Ça devrait être interdit, un chahut pareil à midi, quand il y a des gens sapristi qui ont tant sommeil.
Un Mexicain basané
est allongé sur le sol.
Le sombrero sur le nez, en guise.
Bendita la madre que te parió.
Je de parasol.
Hombre.
Notre disc jockey, M. Maurice Bolduc, m'indique que cette chanson où on entend Marcel Hamon, qui avait enregistré à l'origine ce hit, chante ici avec Charles Aznavour, dont on pense qu'il s'agirait du dernier ou d'un des tout derniers enregistrements à la toute fin de sa vie. Voilà. Alors, c'est tout à fait approprié. À part de ce temps-ci, il fait très beau et très chaud, selon le baromètre du Québec pour un 22 mars. Et au Québec, on connaît soit l'anorak, soit les Bermudas, mais il n'y a rien entre les deux. Alors, de ce temps-ci, ben, tout le monde a sorti ses Bermudas, puis tout le monde a rangé son anorak. On a maintenant avec nous Mme Christiane Campagna. Comment allez-vous, madame?
Je vais très, très bien. Oui. Je me souviens d'un 22 mars 2012 où il faisait 28 degrés.
Ah oui? Oh là là!
Il y avait des grosses manifestations, d'ailleurs.
Ah oui, 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 je me souviens, oui. Ça ne me revenait pas tout de suite pourquoi cette journée-là était restée gravée dans la mémoire. Voilà, ben oui, je me souviens qu'on n'était pas en anorak ce jour-là. Ça,
pas
c'est
du
vrai.
Tout.
Voilà, OK. Et puis?
Eh bien, maintenant, je vais vous donner tout d'abord quelques nouvelles du milieu. Un suivi d'une entrevue de la semaine dernière
où
on a parlé
vrai.
À Véronique Vézina des démarches pour prioriser les personnes en situation de handicap en ce qui a trait au vaccin. Il y a eu une semi-bonne nouvelle la semaine quelques jours après où toutes les personnes présentant un diagnostic de déficience intellectuelle ou physique habitant dans des résidences, un peu les résidences dont vous avez parlé notamment
Des ressources intermédiaires, tout ça, oui.
Oui, tout ça. Donc, toutes ces personnes-là seront vaccinées. Par contre, bien entendu, notamment chez les associations de parents, on est un peu déçus d'apprendre que les personnes en situation de handicap qui habitent dans leur milieu familial, elles,
ben oui.
ne seront pas priorisées.
Et elles sont tout aussi vulnérables et ça ne change rien. Et même que mettre la famille en isolement, et ainsi de suite, là, ça peut être assez compliqué. Alors, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. L'action du milieu communautaire pour le bien-être et les revendications des droits des personnes vivant en situation de handicap peut dire qu'ils ont fait réagir le gouvernement, mais le gouvernement a compris à moitié.
Ben voilà, c'est que ça, en ne vaccinant pas ceux qui sont dans des milieux familiaux, c'est que c'est encore l'accès au répit, l'accès aux soins à domicile qui est limité si on veut protéger la personne vulnérable si elle n'est pas vaccinée. Et pour par exemple, selon une lettre de la COFAN, ben c'est un reliquat de
l'institutionnalisation.
Donc, qui a encore repris
oui.
Le dessus malgré les discours d'inclusion.
C'est ça. En fait, les personnes handicapées devraient être placées. Comme ça, on peut s'en occuper.
C'est plus simple.
Ça fait simple. Et puis, c'est comme dirait quelqu'un que je connais qui habite à la baie des Chaleurs, c'est simple.
Et je voulais aussi souligner qu'on est en pleine semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 21 au 27 mars. C'est la 33e édition. Mm-hmm. Et le thème cette année, donc, c'est de défaire les fausses croyances qui entourent la déficience intellectuelle. Penser que les personnes ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas être en couple.
Mm-hmm.
Donc, on essaie de déconstruire tous ces préjugés et on renvoie la balle dans le public en disant, posez-vous un peu des questions sur d'où viennent ces idées reçues.
Exact.
Et pourquoi est-ce que vous pensez ça? Et je ne l'avais pas écrit dans ma chronique, mais ça vient de me rappeler quelque chose. J'ai vu passer la vidéo d'une chanson. Il y a eu une campagne en Grande-Bretagne sur l'emploi des personnes ayant une déficience intellectuelle. Et c'est une chanson faite par Sting.
OK.
Qui est vraiment rigolote et mignonne, qui explique comment le fait qu'un pâtissier avait embauché quelqu'un, un des clients qui est allé était par exemple le barbier qui a décidé d'embaucher quelqu'un et la personne qui est allée chez le barbier avait un autre commerce. Et toutes ces personnes-là ont vu que ça fonctionnait et ont été... Donc, il faut que des premières personnes le fassent
pour
inspirer les autres.
Oui, oui. Puis on en a parlé ici assez souvent justement dans l'intégration dans le monde de l'emploi, que ce soit les cliniques de physiothérapie, que ce soit des domaines hôteliers ou ainsi de suite, qu'il y a des façons d'y arriver. Puis on s'aperçoit que c'est des gens comme nous, voilà, point à la ligne.
Exactement.
Alors pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas vivre comme nous?
Maintenant, on va faire un petit saut en France. La suite de quelque chose dont je vous avais parlé la semaine dernière, les Marius de l'audiodescription.
Oui.
Je vous avais dit les nommer, je vous avais décrit les critères, tout ça. Eh bien, on a le gagnant.
Alors là, est-ce que vous avez une enveloppe à déchirer avant de le dire ou on fait ça?
Ça a été dévoilé sur YouTube lundi dernier, quelques heures après notre émission. Donc, c'est le film Été 85, qui est un film de François Ozon. Et les textes pour décrire les images ont été enregistrés par Sabrina Bus. Et elle avait une relectrice ayant une déficience visuelle, donc.
Okay.
C'est une bonne façon de faire les choses. Une dame qui s'appelait Delphine Hamel. Et c'est la société M141. Alors voilà, c'est le grand gagnant du Marius de l'audiodescription.
Parfait.
Ah ben, encore une fois, on attend qu'il y ait ça ici pour dans nos prix de cinéma.
Oui, oui, pour récompenser ceux qui travaillent dans l'ombre, c'est le cas de le dire.
Exactement. Et puisqu'on est dans le cinéma, tiens, le film Crip Camp est en nomination dans la catégorie des documentaires aux Oscars. C'est un film qui est paru il y a environ un an, un documentaire qui suit un groupe d'adolescents en situation de handicap qui se réunissent au début des années 70 dans un camp d'été près de Woodstock. Et l'ambiance est très Woodstock, là.
Okay.
C'est, quand on voit le documentaire, là, on revoit tout de suite l'ambiance de l'époque. Et finalement, ce sont des personnes qui, à se côtoyer comme ça, se sont mobilisées et qui vont finir par être les leaders des mouvements des droits civils pour les personnes en situation de handicap aux États-Unis.
Et ça, c'est vrai, là. C'est pas une fiction.
Non, c'est pas une fiction. C'est un documentaire. Beaucoup de grands leaders des droits des personnes en situation de handicap aujourd'hui avaient fréquenté ce camp. Le documentaire a été produit par la société de production des Obama, Higher Ground, la compagnie de Barack et Michelle Obama, qui sont aussi crédités en tant que producteurs exécutifs.
Oh, d'accord. Et ça s'appelle?
Ça s'appelle Crip Camp.
Parfait. Vous l'aviez dit tout à l'heure.
Le Crip titre Camp. En français... je pense qu'il a changé, parce qu'au début, ça s'appelait « Debout », ce qui est un peu maladroit.
Oui.
Alors, je sais qu'on a rechangé le titre français depuis. Mais de toute façon, sur Netflix, on peut facilement chercher un film, même si on a l'intention de le voir en français. Vous pouvez le chercher en anglais.
Oui, oui. « Trip Camp », T-R-I-P, Camp, C-A-M-P.
Exactement. Et on a aussi appris qu'il y aurait une nouvelle saison pour la série « Special », toujours sur Netflix. La série est adaptée du roman de Ryan O'Connell qui s'appelle « I'm Special and Other Lies We Tell Ourselves ». Ça raconte l'histoire d'un jeune homosexuel ayant une paralysie cérébrale légère qui décide de changer de vie parce qu'il habite encore avec sa mère après 30 ans. Il décide de faire plein de gestes pour changer de vie. La première saison est sortie en 2019. C'était 8 épisodes de 15 minutes. Là, ça s'écoutait dans le temps de le dire. La série a été... écrite et produite par Ryan O'Connell lui-même, qui joue son rôle. Et la saison 2 est attendue pour le 20 mai 2021 sur Netflix. Cette fois-ci, les épisodes vont durer 30 minutes au lieu de 15. Donc, on va élaborer davantage. Par contre, il venait un petit pot avec les fleurs. Là, Netflix a confirmé qu'il n'y aurait pas de troisième saison.
Oh, d'accord.
Il y a comme une mesure des succès chez Netflix, comme c'est assez un succès assez grand pour une deuxième saison, mais pas assez pour investir
troisième, dans une troisième. C'est ça, exact. Est-ce que ça va devenir mainstream? Est-ce que ça va être le sujet de conversation dans le public en général? Là, c'est ce qu'ils veulent.
J'avais suivi la première saison, c'est très, très intéressant. Notamment, c'est quelqu'un qui a un handicap assez léger et dès le début du documentaire, pas du documentaire, cette fois-ci, c'est une auto-fiction. ça lui pose des questionnements, notamment dans son milieu de travail, à savoir s'il devrait
Est-ce qu'il devrait le dire? Puis, bien évidemment, je l'ai pas vu, mais je suppose qu'il y a aussi le questionnement, par rapport à son handicap, doit-il en parler ou doit-il le cacher? Mais comment est-ce qu'il vit son homosexualité? Est-ce que là aussi, il y a un questionnement?
Oui,
fait comme deux problématiques parallèles. Oui.
Oui, mais c'est pas deux problématiques distinctes, c'est interrelié parce que... il a fait son coming out, mais c'est complexe. L'ont empêché d'avoir une vie épanouie.
Ah, OK, d'accord.
On pourrait dire ça comme ça.
On a hâte d'écouter ça. J'espère que la deuxième saison se finit avec une forme de conclusion. Peut-être que... Mais vous savez, dans la vie aussi, des fois, les choses ne finissent pas avec une conclusion. Des fois, les choses se finissent avec une patte en l'air, puis on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'on n'y est pas encore arrivé.
Mais comme c'est de l'autofiction, de toute façon, on pourra, même si c'est pas une série sur Netflix, suivre si M. O'Connell continue d'écrire à propos de ce qu'il vit.
Tout à fait.
Il y a une façon comme une autre de suivre son destin.
Rien ne nous empêche de le faire. Et cette série s'appelle, encore une fois?
Special.
Special. Bon, spécial.
Oui, tout à fait.
Peut-être le traduiront-ils en français avec un autre titre, mais il me semble que spécial...
Mais il me semble que c'était spécial.
Spécial, c'est bon, ça. Ça va de partout, ça. Voilà.
Et pour connaître d'autres parcours, vous pouvez écouter l'émission de Camille Chaille vendredi.
Oui.
Elle reçoit Gilles Gauthier, qui vit avec une diplégie spastique. Il a travaillé à l'OPHQ. Il est maintenant un patient partenaire au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous pourrez découvrir aussi ce que sont les patients partenaires. Et ainsi que Maxime Pelletier, qui est webmestre pour l'Association des amputés de guerre du Canada, qui lui-même vit donc avec une amputation des deux bras. Et c'est aussi, parce que c'est une semaine sur deux, c'est l'émission On parle de sport demain soir sur Canal M. On aura des résultats de parasport, des résultats de basketball en fauteuil roulant universitaire. Et l'animateur va s'entretenir avec Marc-André Fabien, qui est président au Comité paralympique canadien. Oui, il sera question des élections, justement, à ce comité.
Ça, c'est important. Oui. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Christiane Campagna, celle qui parcourt tout le net sans relâche pour nous. Et en plus, et qui évidemment nous dit ce qui se passe partout dans le monde, parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, comme elle l'est elle-même. Voilà. Et M. Maurice Bolduc, notre metteur en onde, DJ et musicologue.